Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Difficile pour écrire. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Le ciel est gris, il pleut et il fait froid. Trop de mois de juillet. J'ai pas le moral. Henri m'énerve et me donne le cafard. C'est pas du haut temps, car en réalité du beau temps, je m'en fiche. Je pars jamais en vacances et je trouve que la ville est beaucoup plus belle en noir et blanc. Non, ce qui m'énerve, c'est la peur de perdre mon temps. Tout ce que je fais doit aller vite, même si ce n'est pas pressé. C'est comme une maladie. Alors, je cours tout le temps et ça me fatigue. Je veux me reposer des fois, mais l'angoisse me prend, la peur de perdre le temps. Alors, je suis toujours sur les nerfs, mais que faire? Il y a aussi une chose. C'est que chaque fois que j'entreprends quelque chose, je me dis que je pourrais passer mon temps à faire autre chose. Ce qui fait que je n'éprouve aucun plaisir. Si je lis, je me dis que je pourrais écrire. Si j'écris, je me dis que je pourrais enregistrer une émission, etc. C'est comme une spirale qui m'a aspiré. Avec tout ça, il faut que j'écrive, écrire, écrire. Ce n'est pas difficile d'écrire, mais le plus dur, c'est de trouver un sujet par semaine, et quelquefois deux ou trois. Après 10 années d'écriture, on commence par s'épuiser, et puis la panique si l'on ne trouve rien. Pour trouver un sujet, je dois être seul dans le calme. Une fois que j'ai trouvé, je vais me détendre dehors, et là, je le finis, je le peaufine. Quelquefois un thème anodin se rehausse par la dernière phrase, ce qui n'est pas obligatoirement une conclusion, mais une solution ou une idée. Rien n'est plus désagréable que d'être dérangé lorsque l'on écrit. Être obligé d'arrêter d'écrire lorsque le téléphone sonne, par exemple. Tiens, c'est justement ce qu'il fait. Merde, ce doit être lequel? Toutes les personnes que je connais ont beaucoup de temps libre. Alors bien sûr, elles ne se rendent pas compte que moi je n'ai pas le temps. Ça continue à sonner. Il faut que j'aille répondre. Il se lève de son bureau et va décrocher le téléphone qui se trouve dans le couloir sur une commode. Monsieur Junier, j'écoute. C'est Marc. Bonjour Marc. Tu es loin? Non, pas trop, je suis à Villeurbanne. Ah bon, il me dit. Je te téléphone, c'est pour te dire que je prends la pièce le 13. Tu couches dans ta pièce? Je lui dis. Oui, bien sûr, il me dit. Ah, et le 14, je peux? Qu'est-ce que tu fais? Je lui dis. J'écris, je reste toute la journée chez moi. Il me dit. Ah, je peux venir te voir quand? Je lui dis. À partir de 20h. Il me dit. Pas plus tôt, parce que si tu te lèves tôt, ça va te faire partir un peu tard pour retourner chez toi. Je lui dis, bon, disons 19h. Il me dit, bien, à part ça, ça va? Je lui dis, oui, toujours pareil. Il me dit, bon, alors, un mardi, 14-20h. Oui, au revoir, au revoir. Il soupire. C'est toujours la même chose. L'on sait que j'ai une pièce qui me sert à me reposer. Il faut toujours qu'on me la demande. Je n'ai pratiquement pas pu m'en servir. Ma sœur me l'a demandé pour quelques semaines. Il devait rester 2 ans. Puis une autre personne, 1 an. Une autre, 3 mois. Et maintenant, c'est lui. Les gens nous embêtent. Elle retourne dans son bureau et crie. Et voilà, maintenant que je suis énervé à cause de ça, comment vais-je pouvoir me concentrer pour chercher un thème? Mais on ne peut pas me foutre la paix. Bon, voyons un peu. Trace des traits sur sa feuille. Tape du poing sur la table avec son stylo. Non. Rien, rien, je ne trouve rien. Alors il se lève pour marcher dans la pièce. Voyons, voyons, il faut que je trouve quelque chose. Déjà 10h. Je n'ai rien fait à cause de l'autre. Et puis il faudra que je n'oublie pas de lui dire de faire attention à la chasse d'eau. Elle fuit. J'espère qu'il ne va pas déranger mes affaires. Bon, voyons, tâchons de trouver quelque chose. Chocolat. Ça m'aidera. Il va à la direction de la sortie du bureau. Longe un couloir et entre dans la cuisine. Il va ouvrir le buffet pour prendre une boîte de chocolat. La boîte et mange un ou deux pavés. Puis remet la boîte dans le buffet et retourne au bureau. C'est assis à son bureau. Bon, essayons de faire de vide en nous.
Il voit dans son esprit une femme qui marche dans les rues, une ville. Les rues sont vides. La femme mystérieuse réfléchit et écrit. Un homme rencontre une femme mystérieuse dans la nuit. Il ne sait rien d'elle, mais veut l'épouser. Va voir sa mère qui habite une vieille maison. La mère accepte. Ils se marient. La nuit, elle sort de chez elle. Elle va dans une cabane de pêcheurs dormir dans une barque. L'homme la suit. Il ne comprend pas son comportement. Il demande à sa mère si elle est folle. La mère lui dit « Ne dites jamais cela !» Au médecin du village qui lui dit qu'elle est normale et que ce qu'elle fait, elle doit le faire et que l'on n'y peut rien. Qu'attend-elle ? Le retour de son amant qu'il a promis de l'emmener dans le monde de la grâce. Elle ne veut pas que son mari la touche, veut rester chaste, mange très peu. Un jour, son mari la voit partir avec un homme dans une barque. Son mari la recherche et tout le pays semble savoir où elle est. Tout le pays semble savoir où elle est. Il relit ce qu'il a écrit.
Non, ça ne va pas. Je ne sens pas l'histoire et je n'ai pas envie de l'écrire. Que faire ? Que faire ? Le temps passe et je n'y ai presque rien écrit. Laissons tomber pour aujourd'hui.
Il décide d'aller se promener au parc de Chazières. Dehors, il se sent coupable et il n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui. Chez lui, se trouve seul avec son problème qui n'a pas résolu.
Que faire ? Que faire ?
Il va dans son bureau. Regarde sa feuille blanche, car l'autre où il a écrit, il l'a jetée. Cela l'énerve, il a l'impression de perdre son temps.
Je ne veux pas que ma journée soit perdue. J'écrirai demain. Je vais regarder un film que j'ai enregistré à la télévision. »
Alors, il va sortir du bureau pour aller au salon voir la télévision. Il habite rue Chazière pour son travail et a une pièce rue Garibaldi. Les jours où il ne travaille pas, il y va. Cela le détend un peu car il n'y a pas le téléphone là-bas et en général personne ne vient le voir. Rue Garibaldi, il a apporté à écrire.
Jamais si je trouve un sujet.
La pièce est de taille moyenne. À un coin, salle d'eau, les murs sont blancs, il y a un meuble lit abattant, deux chaises, un secrétaire. Après une nuit excitée, d'angoisse, c'est toujours la même chose lorsqu'il n'a pas trouvé des sujets. Il a peur de ne pas en trouver un. Cela l'empêche de dormir, manger et de faire quoi que ce soit. Donc, il se réveille après une nuit d'insomnie. Prend sa douche, son petit déjeuner. Et s'habille. Il est 8 heures. Il s'assoit à son bureau. Relit ce qu'il a écrit. Soupire.
Essayons de le développer. D'abord trouver les noms. La femme.
Il prend dans le tiroir de son secrétaire un vieux calendrier PTT 1959 pour regarder les prénoms.
La femme, Élise. L'homme, Robert. Lieu, une ville au bord de la mer. La ville, n'importe quel nom.
L'hiver, une ville au bord de la mer, presque vide, une femme, grande, mince, habillée d'une robe noire, marche dans la ville. Les rues sont vides, son regard est blanc, son pas est lent, elle ne regarde rien. Tous la connaissent, c'est Élise. Tous la connaissent et personne ne parle d'elle. Ils la voient et c'est tout. C'est à la tombée de la nuit qu'elle sort. Personne ne sait où elle va. À part le bruit de la mer, il y a ses pas et rien d'autre. Ce soir-là, un soir plein de brume de novembre, elle a croisé un homme. Il l'a vu, il a été ébloui par elle, l'a suivi. Il ne semble pas se rendre compte qu'elle est suivie. Puis, elle est partie de la ville et est allée sur la plage. Là, l'homme l'a perdue, mais son souvenir est resté. L'homme est retourné à l'hôtel près de la plage et décide de la rechercher. La nuit, il sillonne les rues de la ville dans l'espoir de la revoir. À chaque bruit qu'il entend, une porte qui claque, des volets qui se ferment, des pas, il sursaute car il croit que c'est elle. Des nuits sont passées. Mais il ne l'a pas revue. L'homme n'ose pas demander qui est cette femme. La journée, il se repose sur la barque et rêve à elle. Il est toujours seul et personne ne sait qui il est. La journée, il se repose sur la plage en rêvant à elle. Il est toujours seul et personne ne sait qui il est. On sait, d'après ce qu'il a écrit sur le cahier de l'hôtel, qu'il s'appelle Hubert S., diplomate. Il est grand, maigre, les cheveux châtains, le visage osseux. Il doit avoir dans les 35 ans. Son allure ne manque pas d'élégance. Il est toujours habillé d'un costume blanc.
Je vais faire pleurer le bois.
Vendarme
sans le bâton, là.
Aïe, merde, putain. Puisque je te dis qu'avec 4 bières, ça ne sert à rien.
Calme-toi, toi.
Après avoir pris son petit déjeuner dans la salle à manger de l'hôtel, devant les yeux écarquillés de tous, il est monté à sa chambre.
Tu vas pas habiter, tu es plein de gonzesses.
Il s'allonge sur son lit, tout habillé. Les volets sont clos. 2 heures plus tard, il va à la plage jusqu'à 18h et retourne à sa chambre faire toilette pour le dîner qu'il prend à l'hôtel. Il ne parle jamais, ses yeux ne semblent voir personne, mais sa politesse est irréprochable. C'est à 22h qu'il va à la recherche de la femme. Car pour lui, ce n'est que la femme. 22h parce que c'est l'heure où il la rencontre. Ce qu'il aime en cette femme, c'est sa démarche, son visage calme, son mystère. Une nuit, il la voit qui qui débouche d'une rue transversale. Elle est toujours habillée de noir, une robe noire, sa démarche est la même. Il la suit, mais de loin, pour ne pas l'effaroucher. Elle entre dans l'allée d'un immeuble de 2 étages. Vieille façade de maison du pays, aux murs blanchis, qui n'a pas d'ornement. Il n'a pas osé entrer dans l'allée. Mais le lendemain matin, il y est retourné et a osé entrer dans l'allée. A frappé à la porte du rez-de-chaussée, la porte s'ouvre. Une femme grosse et petite, les cheveux gris, habillée d'une robe noire, lui demande « C'est pourquoi ?»«
Pardon, madame, je cherche une jeune femme que j'ai vue entrer dans votre allée hier au soir. Elle est grande, mince, habillée de noir, le visage très pâle et les cheveux longs, noirs.
Qu'est-ce que vous lui voulez à cette fille ?»«
Rien, j'aimerais simplement la connaître. » »«
C'est Élise. » Elle habite avec sa mère, au premier. Vous ne lui voulez pas de mal, j'espère.
Non, madame.
Elle referme la porte. Hubert monte au premier. Frappe à une porte. Lui a ouvert une femme, petite, maigre, habillée de noir, le visage ridé et les cheveux en chignon gris.
Oui. Bonjour madame, j'ai rencontré votre fille et j'aimerais faire sa connaissance.
Élise, entrez.
C'est ce qu'il fait et elle ferme la porte. Les murs sont blanchis à la chaux. Elle se trouve près de la fenêtre, assise à une chaise. Il s'approche d'elle.
Je vous ai rencontré et j'aimerais que nous soyons amis. La femme qui est derrière lui lui dit.
Elle ne parle pas.
Muette ?
Non, c'est comme ça. Elle a toujours été comme ça.
J'aimerais lui demander si elle accepterait de se fiancer avec moi.
Elle accepte toujours tout.
En tout cas, l'on croit qu'elle accepte toujours tout. Tenez-moi votre main. » Et la femme met la main de l'homme dans celle d'Élise. L'homme demande, « Je peux l'amener, sortir ?»« Vous pouvez. » Il dit à la fille, « Venez. » Et ils partent. Toute la ville a vu l'homme et la fille ensemble. Personne ne dit rien. Puis l'homme, Hubert, va tous les jours voir sa fiancée. Elle ne parle toujours pas, reste assise à côté d'elle, près de la fenêtre. Il aime sa sérénité et son silence. Après un mois, ils se sont mariés à la mairie. La ville n'a rien dit. Il a loué une maison, une belle maison avec terrasse, toute blanche, au bord de la mer. Elle n'a rien dit. Les jours passent et sereins. Et une nuit, il s'est réveillé. Elle n'était plus là, plus près de lui. Alors, il a compris qu'elle était partie dans les rues désertes. Il la cherche. Après une heure de course folle, il la retrouve. Elle va en direction de la plage, calme. Et sans rien voir, il l'a suivie. Elle est entrée dans une maison de pêcheurs. Il a regardé par le trou de la fenêtre et l'a vue se coucher sur une barque. Au petit matin, elle s'est levée et a retourné dans la villa. Et s'est endormi. Toutes les nuits, le manège recommence. Hubert finit par penser qu'elle est folle. Il faut le comprendre. Pour savoir, il cherche à interroger les gens de la ville. D'abord la concierge de l'immeuble. Il va frapper chez elle.
C'est pourquoi. J'aimerais savoir ce que vous pensez du comportement d'Élise.
Je ne pense rien. Elle fait ce qu'elle doit faire.
Vous n'êtes pas surpris de la voir sortir toutes les nuits?
Non, car elle le doit.
Pourquoi?
Parce que chacun se doit d'agir selon son devoir.
Quel devoir?
Je ne sais. Elle est seule à le savoir.
Ah! En parlant de devoir, je dois vous quitter. J'ai le gigot qui a à surveiller.
Et elle ferme la porte. Les autres personnes qui l'interrogent répondent de la même façon. Hubert décide d'aller voir le médecin de la ville dans son cabinet.
Est-elle folle?
Surtout pas. Elle fait ce qu'elle doit faire. Les fous ne le font pas.
Cela ne vous paraît pas anormal qu'elle sorte la nuit comme ça et qu'elle se couche dans une barque?
Si elle doit le faire. Ne cherchez pas à comprendre. C'est ainsi. Vous êtes marié avec elle. Vous l'avez eue. C'est déjà beaucoup.
Le temps passe, la nuit toujours dans son trajet nocturne. Maintenant, elle ne dort plus dans la barque, mais reste assise à contempler la mer sur un voilier. Hubert s'assoit près d'elle. Elle semble ni le voir ni l'entendre.
Élise, venez, je vous en prie. Élise, venez.
Elle reste toujours le regard fixé sur l'horizon de la mer. Quel que soit le temps.
Et puis un jour, de grand vent, il la suit et entend des voix en écho. Elle va, elle sait qu'il va la chercher, qu'il va l'emmener. Il va l'emmener sur l'île de Cristan. Regardez-la. Voyez son visage comme il est lumineux. Elle court vers lui. Elle sait qu'il arrive. Elle l'a attendu depuis si longtemps. Élise, 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 Élise.
Le vent rend difficile la démarche d'Hubert. C'est la pleine lune et les murs des maisons sont blancs sur fond de ciel noir. Lui s'essouffle, elle avance calme en direction de la plage. Les voix continuent en écho. Elle va rejoindre Cristan. Elle va rejoindre Christian. Elle va partir avec lui. La mer va les unir à jamais et les flots les déposer sur l'île. Cela fait si longtemps, cela fait si longtemps, cela fait si longtemps.
Cela fait si longtemps qu'elle attend. Sur la plage, la mer est calme.
Puis, elle devient houleuse. Beaucoup de vent. Elle court.
Hubert la voit s'éloigner. Apparaît sur la mer une barque avec dessus un homme. Un jeune homme. Elle court vers la barque, entre dans la mer en marchant. Il lui tend les bras pour la faire monter. Elle monte. Et la barque s'éloigne et disparaît.
Hubert court sur la plage.
Le vent le fait tomber, la tête la première sur le sable.
Lorsqu'il se réveille, le soleil brille. La mer est calme. Il se lève et va dans la ville.
Tout est silencieux, sauf le bruit du vent. Il sait que c'est fini pour lui. L'homme est parti et n'est plus revenu. ont dit qu'on en aura retrouvé leur corps sur la plage quelques jours après le départ d'Hubert. Mais personne ne veut le savoir. Pour Hubert, cette aventure est vieille, féerique. Pour les gens de la ville, ils la veulent ainsi, aussi féerique, car ils veulent oublier le vrai. Élise était jeune fille qui vivait avec sa mère. Un jour, elle est tombée amoureuse d'un pauvre pêcheur dont la mère était un peu gitan, sorcière. À un bal organisé par la ville, il y a eu un scandale. La belle, douce, pure Élise avait dansé avec Tristan, le pêcheur, fils de la sorcière. Ils se sont aimés. On a tout fait pour les séparer. La ville a chassé le pêcheur, l'a fait partir au loin sur une barque qui prenait l'eau. Élise, en apprenant son départ et sa présumée mort, tomba malade et ne parla plus. Elle passait son temps à l'attendre la nuit dans sa maison de pêcheur au bord de la mer. La ville se sentit coupable et voulut oublier le vrai pour garder que le féerique. Même lorsqu'elle apprit bien plus tard que Tristan avait été secouru par un bateau qui partait loin dans les océans, la ville se dit que Tristan reviendrait chercher Élise. Elle savait d'instinct qu'il allait revenir. Il est revenu la chercher, mais la tempête les a happés et déposé leur corps sur la berge. L'on sonne à la porte.
Il est quelle heure? 18h. Si c'est lui, il vient un peu tôt.
Il va ouvrir. C'est Marc avec ses affaires.
Bonjour Marc, tu viens bientôt?
Oui, j'ai pensé, comme cela tu pourras tout m'expliquer. Tu auras le temps, quoi. Il le fait entrer et ferme la porte.
Pose ton sac.
Il le met à terre.
Voilà, tu feras bien attention à la chasse d'eau, car elle fuit. Tu remplis la chasse d'eau, tu la tires. Non, tu tires la chasse d'eau. Tu attends qu'elle se remplisse et tu fermes l'eau froide. Voilà.
Bien, je ferai très attention.
Ensuite, fais attention de ne pas effacer mes cassettes. J'y tiens, même si c'est mal enregistré, car ce sont des musiques rares. Et ne touche pas à mes écrits.
Qu'est-ce que tu écrivais?
Une histoire d'amour un peu fantastique.
Tu as fini?
Il soupire. Non, j'ai pas fini. Puis je ne peux pas faire. Comment veux-tu? Puisque tu es là, lorsque tu viens dans un endroit, tu bouleverses tout.
Tu es fâché?
Non, pas pour cette fois en tout cas, parce que mon histoire ne pourrait pas aller plus loin.
Alors, tout est pour le mieux?
Tout est pour le mieux pour cette fois. Mais je comprends ceux qui s'isolent pour écrire.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Difficile pour écrire. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.